Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Annoncer l'évangile de l'espérance, c'est le message que le pape François a adressé aux missionnaires oblats de Marie Immaculée pour leur 37e chapitre général. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira notamment en Somalie, en Éthiopie et en République démocratique du Congo. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-José Moindo.
Commençons cette actualité avec l'intention de prière du pape François pour le mois d'octobre 2022. Le Saint-Père nous demande de prier pour une Église ouverte à tous, pour que l'Église fidèle de l'Évangile et courageuse dans l'annonce soit un lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil, vivant de plus en plus la synodalité. Faire un synode signifie marcher ensemble. Une Église avec ce style synodal est une Église d'écoute qui sait qu'écouter est plus qu'entendre. L'apostolat de la mer est au service de l'homme et de l'environnement. C'est ce que souligne le message du pape François adressé lundi aux participants au congrès mondial de Stella Maris qui se tient du 2 au 5 octobre à Glasgow en Écosse. Plus de précisions avec Jacques Ngol.
En cette joyeuse occasion, je me joins à vous et à tous ceux qui sont associés à Stella Maris pour rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour le témoignage de foi et les innombrables actes de bonté et de charité dont ont fait preuve tant d'aumôniers et de bénévoles au cours du siècle dernier envers ceux qui travaillent sur nos mers et nos voies navigables pour le bénéfice de tous. Le pape François se réjouit dans son message adressé aux participants au congrès mondial de Stella Maris qui se tient du 2 au 5 octobre à Glasgow en Écosse. Ce congrès marque la célébration du 100e anniversaire de la création de cet apostolat caritatif. Tout en rendant grâce à Dieu, le souverain pontife a manifesté sa joie pour les œuvres accomplies par Stella Maris qui n'est rien d'autre que la continuation de la mission des disciples légués par Jésus, celle d'aller de par le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Saisissant l'occasion, le Saint-Père a insisté sur l'importance de cette mission et a rappelé les défis de cet apostolat liés à la préservation de la nature et de la dignité humaine. Tout en rassurant les participants à ce congrès de sa proximité et de sa prière, François a renouvelé sa confiance à Stella Maris dans cette noble mission et l'a encouragé à s'engager davantage pour défendre les causes des vulnérables.
Lors de l'audience qu'il a accordée aux participants au chapitre général des Oblats de Marie Immaculée, le pape les a exhortés à porter la lumière de l'évangile d'espérance, de joie et de paix à travers le monde. Après cette rencontre, le père Ferdinand Owonondi, provincial du Cameroun et président de la conférence des supérieurs majeurs des Oblats en Afrique, a accordé une interview à Radio Vatican. Il est notamment revenu sur le message que le pape leur a délivré en partant du thème de leur chapitre général, Pèlerin d'espérance en communion, on l'écoute.
Il s'est appuyé essentiellement sur notre thème du chapitre pour nous inviter à devenir missionnaires de l'espérance, puisque notre chapitre porte sur le thème Pèlerin de l'espérance en communion. Et il a insisté donc sur les trois mots, pèlerin, de l'espérance et en communion, en nous invitant à être donc missionnaires de l'espérance et en insistant sur la figure de Marie également, la pèlerine auprès de son fils. Alors, nous retenons cela comme une invitation à intégrer ce thème.
Pèlerin d'espérance en communion est donc le thème que votre chapitre général exploite, vous venez de le souligner. Pourquoi le choix de ce thème? Est-ce que votre congrégation veut arriver à un changement interne ou externe en lien avec votre apostolat d'Oblat de Marie Immaculée?
Oui, c'est un thème bien choisi dans la logique de l'Église qui est une Église en marche vers le synode sur la synodalité. Il y a cette dynamique de toute l'Église pèlerine. Et également, nous sommes dans un monde où l'espérance est en train d'éternir. Il y a trop de nouvelles qui semblent attrister l'humanité ou qui attristent même l'humanité tout entière. Beaucoup de mauvaises nouvelles au point où on a tendance à perdre l'horizon. Et nous voulons donc nous rebooster dans cette dynamique de l'espérance apportée à l'humanité et ceci dans un esprit de communion, de synodalité, dans un esprit d'ensemble pour que cette espérance puisse repartir et permettre à chacun de comprendre que, au-delà de toutes ces nouvelles et de toutes ces catastrophes, de toute cette souffrance autour de nous, on ne doit pas perdre l'espérance.
Vous êtes président des conférences des supérieurs majeurs des Oblats en Afrique. Dans combien de pays africains êtes-vous?
Oui, les Oblats sont en Afrique dans 16 pays et dans les quatre coins de l'Afrique. Au nord de l'Afrique, nous sommes au Sahara occidental. Vous connaissez que c'est un lieu de transit de toute l'immigration occidentale. Nous sommes donc dans cette zone assez difficile.
Et là, vous êtes investi dans quel apostolat?
L'apostolat d'accueil et d'écoute, puisque dans cette zone, nous n'avons pas le droit de faire l'évangélisation comme ailleurs. Donc, ceux qui sont là, écoutent, accueillent les migrants. Nous sommes dans des pays fortement musulmans, comme le Sénégal, où il y a un grand apport dans le dialogue interreligieux. Nous sommes actuellement au Ghana, au Nigeria, au Cameroun, au Tchad,
à Namibie,
Congo, Kinshasa, jusqu'à l'Afrique du Sud.
Et quels sont vos apostolats principaux dans ce pays? Quelle est votre contribution particulière à la vie de l'Église et aussi à la société africaine?
Je vais recouper en trois catégories. Il y a d'abord la pastorale classique, qui est celle de l'animation missionnaire. Et là, nous choisissons les zones les plus reculées. Nous sommes également dans le domaine de l'éducation où, par une société instruite, on contribue à l'émergence d'une humanité nouvelle. Nous sommes également dans le domaine de la santé et de la pastorale des prisons, des hôpitaux et les prisons. Aujourd'hui, en Afrique, nous sommes dans les médias aussi.
C'était le père Ferdinand Owonondi, provincial de la province du Cameroun et président de la conférence des supérieurs majeurs des Oblats de Marie Immaculée en Afrique. Il s'entretenait avec Stanislas Kambashi. Après le coup d'État du 30 septembre au Burkina Faso qui a vu la destitution du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba par le capitaine Ibrahim Traoré, le cardinal Philippe Ouédraogo a accordé une interview à Radio Vatican. Dans cette première partie que nous vous proposons, l'archevêque de Ouagadougou se prononce sur l'ambiance qui prévaut au lendemain de la médiation des chefs religieux et communautaires afin d'éviter des affrontements ainsi que sur les raisons de ce deuxième coup d'État en 8 mois dans ce pays.
La situation qui prévaut au Burkina Faso à l'heure actuelle, c'est un brin d'espérance pour une sortie de crise. Bien sûr, nous avons passé 3 journées très préoccupantes, le 30, le 1er et le 2. Ben, Dieu merci, avec les interventions des uns et des autres, les faits tiers des communautés coutumières et religieuses sur la situation nationale, ces faits tiers ont été sollicités et se sont impliqués pour la médiation. Et Dieu merci, le dialogue a prévalu au cri des armes. Donc nous avons souhaité vraiment que les armes se taisent et que prévale le dialogue et qu'ensemble nous regardions vers l'avenir, le bien commun, la paix, la réconciliation, la justice et la paix pour le Burkina Faso. Et Dieu merci, nous avons rendu grâce au Seigneur qui nous a permis un dialogue fructueux et nous semblons amorcer vraiment une sortie de crise avec la renonciation au pouvoir par le président mis en cause, le président Damiba, qui présidait le MTSR1, donc depuis janvier 2022. Donc nous sommes dans ce climat d'apaisement et d'attente pour un avenir plus heureux, plus pacifié de notre Burkina Faso.
2 coups d'État en moins de 8 mois. Vous personnellement, quel est votre sentiment après celui du 30 septembre dernier?
Ben, ce sont des coups d'État à répétition et cela pose des problèmes à tout le monde. C'est une instabilité politique très préjudiciable du point de vue politique, du point de vue social, du point de vue international. Et nous souhaitons certainement un peu plus de démocratie et de stabilité pour notre pays. Un pays qui connaît déjà d'énormes problèmes. Ce coup d'État répété et cette instabilité contribuent énormément à la détérioration du climat socio-culturel et surtout le climat institutionnel, l'ambiance économique est au ralenti. Et nous souhaitons vraiment un nouveau départ. Certainement qu'il y a des causes qui ont provoqué ce second coup d'État en 8 mois.
Voilà. En parlant de causes, quelles sont les raisons de ce coup d'État?
Les raisons sont nombreuses et complexes. Quand on est un peu à l'écoute de la société, bon, les uns apprécient d'une manière, les autres d'une autre manière. Trop de nominations inutiles, selon certains, pour l'avenir du pays, à la tête des institutions. La vie chère, l'augmentation des salaires des ministres à un moment jugé inopportun pour certains citoyens, mais essentiellement c'est l'insécurité. L'insécurité était la raison principale du premier coup d'État militaire. Et cette insécurité s'est empirée. Le peuple ne voit pas de progrès significatif. La dernière attaque au Sahel, la semaine dernière, a causé de nombreuses victimes, beaucoup de pertes de vies humaines au rang des militaires, au rang des civils. Un convoi qui partait au Sahel avec un certain nombre de camions de transport de vivres. Il semble qu'il y avait un cortège de plus de 100 véhicules qui ont été interceptés et brûlés par les djihadistes. Et ça, c'était vraiment un coup dur pour le peuple. Au point de vue insécurité, le peuple n'a pas perçu de progrès significatif depuis l'avènement des militaires, malgré les déclarations qui semblent mettre en relief des avancées significatives. Il y a plus de 360 écoles primaires et secondaires fermées. Une bonne partie, la moitié du territoire serait hors du contrôle de l'État. Donc, toutes ces questions constituent de véritables déceptions. Les uns et les autres, surtout au rang des militaires aussi, estiment qu'il y a eu une déviation des premiers objectifs de la junte de janvier dernier qui avait misé essentiellement sur la sécurité, la sécurisation du pays et du peuple.
Le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso, il était interrogé par Françoise Niamien. L'actualité de l'Église nous conduit à présent au Burundi. Cyril Sindai Zeruka nous parle de l'ouverture du jubilé de 125 ans de l'Église catholique.
La messe dans laquelle a eu lieu la festivité d'ouverture du jubilé de 125 ans de la présence de l'Église catholique au Burundi et la clôture des jubilés des œuvres pontificales et missionnaires a été célébrée au sanctuaire marial de Monsieur Gikungu, capitale Bujumbura, samedi 1er octobre 2022. Messe qui a été présidée par Monseigneur Joachim Andereye, évêque du diocèse de Muyinga et président de la conférence épiscopale du Burundi, avec la concélébration de tous les évêques, en présence du nonce apostolique au Burundi, Monseigneur Dieudonné Datonu, et le premier ministre du Burundi, Jérôme Ndirakobucha. Dans son homélie, Monseigneur Naondereye a rendu hommage aux œuvres du cardinal Charles Lavigéry, à qui l'église du Burundi doit les premiers missionnaires, et grâce à eux, le Burundi a été évangélisé depuis l'an 1897. Il a interpellé les fidèles catholiques à garder au cœur ce don précieux de connaître l'évangile du Christ par le biais des missionnaires. Et dans une interview accordée à la presse locale, Monseigneur Naondereye a révélé les indicateurs qui montrent la maturité de l'Église du Burundi dans 125 ans. Je vous prie de l'écouter.
Il y a d'abord le fait que maintenant nous sommes 8 diocèses. Et puis il y a le nombre de prêtres, le nombre de religieux et religieuses qui n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que dans chacun des 8 diocèses, nous approchons la moyenne de 100 prêtres par diocèse, et puis le nombre de religieux et de religieuses, et le nombre même des chrétiens en général, des fidèles laïcs, qui a beaucoup augmenté, qui tend vers le million par diocèse, ce qui est vraiment énorme dans 125 ans.
La messe a été clôturée par l'envoi en mission de 120 jeunes messagers de l'Évangile, et cela dans les 8 diocèses qui constituent l'Église catholique du Burundi. Bujumbura, Cyril Sindai Zeruka de Radio Maria Burundi pour Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, Jean-Baptiste Malenge Kalunzu nous fait part des 75 ans d'existence du petit séminaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus du diocèse d'Idiofa.
Des centaines de prêtres diocésains et religieux et des laïcs compétents et engagés ont été formés au long des âges par les petits séminaires qui ont célébré leur jubilé d'existence. Le petit séminaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus du diocèse d'Idiofa dans les provinces du Kwilu et du Kasaï a célébré ses 75 ans d'existence le samedi 1er octobre en la fête de sa sainte patronne, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. L'évêque d'Idiofa, Monseigneur Joseph Moko, a présidé la messe qu'on célébrait célébré par une vingtaine de prêtres. L'évêque a ordonné 4 diacres. Monseigneur Moko a remercié notamment l'association des anciens élèves du petit séminaire de Laba. Ils font l'honneur de leur alma mater. Au diocèse de Kolwezi, dans la province du Lualaba, le 25 septembre, le petit séminaire Saint-Paul de Kanzenze a fêté ses 70 ans d'existence. Monseigneur Richard Kazadi a présidé la messe du jubilé. L'évêque de Kolwezi a administré le sacrement de confirmation à une dizaine de petits séminaristes. À l'homélie, l'évêque a déclaré qu'il faisait du petit séminaire la priorité de ses priorités. Il a invité ses diocésains à se dépenser pour la reconstruction de cet établissement. Les dons substantiels de quelques fidèles ont déjà permis de payer les études de séminaristes en Italie, à Kinshasa et en Mbujimayi notamment. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Passons à présent à l'actualité politique et sociale sur le continent africain. Au moins 9 personnes ont été tuées et 10 autres blessées dans 2 attaques suicides revendiquées par les islamistes Shebab dans le centre de la Somalie. Les autorités ont annoncé avoir tué un des plus hauts dirigeants du mouvement djihadiste. Selon le commandant de police dans la région du Hiran, Mohamed Mualim Ali, les terroristes ont mené des attaques suicides en utilisant 2 véhicules remplis d'explosifs à Beledweyne, à environ 300 km au nord de la capitale Mogadiscio. Il a précisé que 9 personnes ont été tuées, dont la ministre de la Santé de l'État d'Irchabel et un commissaire de district chargé des finances. L'attaque qui a ciblé un bâtiment gouvernemental a été revendiquée par les islamistes Shebab, groupe lié à Al-Qaïda et qui combat le gouvernement somalien depuis 15 ans. Par ailleurs, les dirigeants de l'opposition de la région séparatiste somalienne du Somaliland ont rejeté dimanche la décision prise samedi de prolonger le mandat du président Moussa Biya Abdi de 2 ans avant son expiration au mois de novembre. Un conseil d'anciens, les Gourtis, dont les décisions ne sont d'habitude pas contestées, a annoncé samedi avoir prolongé de 2 ans le mandat du chef de l'État quelques jours après le report de plusieurs mois de l'élection présidentielle prévue pour le 13 novembre. Les autorités rebelles du Tigré ont affirmé avoir retiré leurs troupes des zones qu'elles occupaient dans la région voisine de l'Amhara au sud pour faire face à l'offensive conjointe des forces de l'Éthiopie et de l'Érythrée plus au nord. Après 5 mois de trêve, les combats ont repris fin août entre le gouvernement fédéral éthiopien épaulé par les forces et des milices de la région Amhara contre les rebelles tigréens. Au moins 14 civils ont été tués samedi lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF en Ituri, région de l'est de la République démocratique du Congo. Selon Jacques Anayei Badingama, président des jeunes de la chefferie de Banyali Tchabi, où s'est déroulée l'attaque, des rebelles armés de machettes avaient fait irruption vers 19h30 dans le village de Kimata. Outre les 14 personnes, 2 personnes ont été blessées et 2 enfants sont portés disparus, certainement kidnappés par des assaillants qui ont aussi mis le feu au village. Le président de la communauté Nyali Tchabi, Faustin Bomba Babanilao, a déploré le manque de présence militaire dans cette région où sévissent de nombreux groupes armés. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Mwando-Bwawalo qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.